Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Quoi de neuf doc, votre émission médicale sur Radio B. Vous allez vous dire une énième émission avec encore un médecin et encore des réponses qui ne vont peut-être pas vous satisfaire. Mais il était difficile de ne pas parler de l'actualité dans notre émission. Aussi, nous allons tenter le plus humblement possible de répondre tout de même à quelques-unes de vos questions. Avec moi, le docteur Meyer, bonjour.
Et bonjour.
Le Covid-19, d'ailleurs Covid-19, moi je vous le déconseille. Prenez le Covid-20, il va arriver bientôt. Faites pas comme l'iPhone, soyez pas cons, parce que...
Un peu d'humour avec Kairon. Docteur Meyer, le but de l'émission, c'est donc de faire le point sur le Covid-19. Peut-être déjà revenir à la base, c'est quoi un virus ?
Alors en fait, un virus, j'imagine que vous voulez le comparer à une bactérie par exemple. Alors j'aurais tendance à commencer par la bactérie. La bactérie, c'est quelque chose, on en a tous, il y en a partout. Elles sont même souhaitables, ce sont des petits organismes qui sont à l'intérieur de notre corps, à l'extérieur, partout. Elles sont extrêmement utiles dans la plupart des cas et elles sont même très précieuses. C'est pour ça qu'on évite de mettre des antibiotiques pour rien, etc. Et puis, il y a des bactéries qui peuvent devenir pathologiques, et si elles sont pathologiques, alors on peut laisser le corps les combattre, et si ça ne suffit pas, on met un antibiotique. Et puis, à côté de ça, il y a les virus. Les virus, c'est d'autres formes d'organismes qui sont un peu différents. Ils ont besoin de vivre dans quelque chose de vivant pour pouvoir se développer, pour pouvoir se multiplier, pour pouvoir muter et donc s'adapter au corps dans lequel ils sont. Voilà, alors ils peuvent vivre un petit peu sur des surfaces quelques heures, quelques jours pour certains, mais ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement.
On a beaucoup comparé au début le Covid à la grippe. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, on les a comparés parce que beaucoup de gens, et notamment des soignants et notamment des médecins, avaient du mal à comprendre pourquoi on faisait un tel ramdam autour de ce virus. Si on le comparait à la grippe qui, tous les ans, tue dans le monde énormément de gens. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi ils font ce cirque-là alors que la grippe fait également du mal? Et donc, c'était ça qui a fait qu'on les a comparés. Et puis, parce que ce sont tous les deux des virus. Ils sont d'une certaine manière de la même famille. C'est-à-dire des espèces de microbes pour lesquels on n'a pas de traitement connu pour la plupart.
D'ordinaire, face à un virus, comment réagit notre organisme ?
En théorie, face à un virus ou à toute bactérie étrangère, il va fabriquer des anticorps, il va fabriquer des défenses qui vont permettre la plupart du temps non seulement de détruire le virus, mais également de prévoir des défenses au cas où une nouvelle attaque viendrait, une défense adaptée à ce type de virus-là.
Et à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on a une bonne immunité pour combattre les infections virales ? D'ailleurs, est-ce qu'on peut le dire ?
Oui, alors en théorie, on a tous une bonne immunité. Après, il y a des âges où on a une immunité un peu plus fragile en tout début de vie. En toute fin de vie, ou en tout cas dans les grands âges, on peut avoir une immunité un peu plus faible. C'est-à-dire qu'on fabrique un peu moins de défense, ou moins vite, ou moins efficace, ou en moins grande quantité. Puis après, il y a toutes les phases de la vie où on peut... également avoir une baisse d'immunité. Ça peut être parce qu'on a un traitement qui nous affaiblit, comme dans les cancers, hein, puisque pour s'attaquer à la maladie, on affaiblit le corps d'une certaine manière. Donc voilà. Puis après, il y a encore d'autres pathologies. Hein. Les gens qui ont une greffe, on leur baisse leur immunité pour que le corps accepte le corps étranger qui est le greffon, c'est-à-dire cet organe qui vient de l'extérieur, qui n'est pas le nôtre à la base.
Alors du coup, pourquoi est-ce que le virus Covid apparaît plus dangereux qu'une grippe ?
Alors, c'est là qu'on a été obligé de le découvrir petit à petit. On s'est rendu compte qu'il n'est pas forcément plus dangereux que les grippes. Mais d'abord, la plupart des grippes aujourd'hui sont combattues par des vaccins. Le corps est souvent préparé à cette espèce de corps étranger qui y arrive, on en est un peu plus protégé. Mais il y a des grandes grippes à travers les siècles qui ont fait énormément de mal, au même titre que le coronavirus, et même beaucoup plus pour certaines. La particularité de ce coronavirus, c'est qu'il a une manière assez particulière de se développer. Il va donner des signes tout à fait bénins à la plupart des gens. Et puis, entre le 6e et le 11e jour, il semblerait qu'il y ait à ce moment-là un développement pour certaines personnes assez agressif, notamment au niveau pulmonaire, avec une diffusion très rapide qui provoque une diminution de l'oxygène dans le sang et tout ce qui peut aller, puisque tous nos organes utilisent l'oxygène. Et donc, si on baisse l'oxygène dans le sang, ça pose d'énormes problèmes. Le coronavirus, il le peut en plus, alors qu'on pense aller mieux, au 21e jour, il semblerait qu'il y ait, pour certaines personnes, évidemment c'est un chiffre comme ça, c'est pas complètement fixe, une relance de la pathologie qui a fait penser aussi que certaines personnes réattrapaient le virus alors qu'elles étaient censées être immunisées. Et donc il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus et on est obligé d'être très prudent sur ce qu'on avance sur cette maladie.
Le Covid, vous l'avez dit, touche notamment et très violemment les personnes dites à risque. On peut rappeler qui sont ces personnes? Qu'est-ce que ça veut dire à risque?
En fait, toutes les personnes sont à risque puisqu'on s'est rendu compte que certains patients n'avaient pas d'antécédents et ont quand même développé des formes assez inquiétantes. Mais globalement, on va faire particulièrement attention aux personnes plus fragiles dont on a parlé tout à l'heure. Les personnes sous chimiothérapie, les personnes sous traitement immunosuppresseur, les personnes âgées. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'une certaine part des personnes, notamment en surpoids, avaient des risques supplémentaires. Alors, il y a également tous ceux qui ont ce qu'on appelle une comorbidité, c'est-à-dire qu'ils ont le coronavirus, mais ils ont également un diabète mal équilibré, ils ont également, une addiction, par exemple, une dépendance à l'alcool importante qui fragilise leur foie, qui fragilise leur corps, et qui va faire qu'au moment où ils vont devoir combattre, ils vont peut-être être moins efficaces.
Ces personnes sont parfois amenées à entrer, on l'a entendu, en réanimation. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors la réanimation, ce sont des services extrêmement pointus où, pour le dire simplement, les équipes, les médecins, infirmiers, soignants, etc., les kinés, tous les professionnels qui travaillent en réanimation vont essayer de passer un cap difficile. Ça peut être après un accident de voiture avec un traumatisme qui a abîmé plusieurs organes et qui fait que il va falloir suppléer le fonctionnement de ces organes le temps qu'on puisse peut-être les réparer ou simplement laisser le corps reprendre le dessus. Donc dans le cas du coronavirus, la plupart du temps, le problème est respiratoire. Donc on va intuber les gens, on va leur mettre un tube dans la gorge qui va aller directement vers les poumons pour pouvoir insuffler de l'air et aider cette respiration qui est trop difficile à assumer pour la personne, trop fragile, trop fatiguée pour respirer normalement, et puis avec des poumons qui sont parfois moins efficaces et donc une moins grande ampleur de la surface qui respire et donc un besoin d'une espèce de pression qui va aider à respirer. Et puis en réanimation, les autres organes peuvent être amenés à être touchés, donc notamment les reins, mais il n'y a pas seulement cela, parfois on est obligé de dialyser les gens, c'est-à-dire avoir un rein artificiel qui, pendant quelques jours, va compenser le non-travail de cet organe vital qui permet d'éliminer ce qui ne nous sert à rien et de conserver ce qui nous est précieux.
Face au Covid-19, les hôpitaux de certaines régions de France ont été dépassés, enfin, il semblerait, vous confirmer.
Oui, alors en tout cas, dépassés, je ne sais pas, ils ont eu très peur de l'être. Pour ceux qui ont été surpris, en fait, les premiers qui ont été touchés, ça a été extrêmement complexe de gérer les lits de réanimation. C'est-à-dire que pour certaines zones, on a eu le temps, comme dans l'Ain notamment, de préparer, c'est-à-dire de doubler la capacité de lits de réanimation. Et puis, on a également bénéficié d'un certain timing qui fait que les mesures prises, que ce soit le lavage des mains, les masques, etc., on y reviendra peut-être, bien sûr, le confinement quand même, qui a probablement eu une utilité, ont permis de diminuer énormément le nombre de personnes qui sont arrivées dans les urgences. Et parmi elles, les personnes qui se sont aggravées, qui auraient dû aller en réanimation. Donc dans certaines zones, elles ont pu y aller. Dans d'autres zones, il y a eu vraiment un embouteillage.
Du coup, cette situation, ces embouteillages, c'est seulement dû à une mauvaise préparation, une mauvaise anticipation ?
Alors, on pourra faire le bilan, je pense, après un certain temps. Ça va être complexe de le faire trop vite, parce que les autorités, quelles qu'elles soient, d'ailleurs, et dans différents pays, les choix ont été parfois différents. Et pourtant, malheureusement, il faut parfois attendre d'avoir passé la période difficile pour se rendre compte que c'était le moins mauvais choix ou le meilleur, parfois. Donc, c'est compliqué de juger ça. Par contre, effectivement, là où il y a eu le temps de se préparer, ça s'est mieux passé. Donc il y a peut-être eu un problème de timing qui est aussi lieu à ce coronavirus. C'est-à-dire que sa forme de fonctionnement qui surprend, c'est-à-dire vous attrapez le truc, ça va plutôt bien, et au 6e, 7e, 8e, 11e jour, tout à coup, les choses s'aggravent en une ou deux heures, impressionnant absolument tout le monde et du coup surprenant un système de santé qui n'est pas habitué à gérer ça. Les systèmes de santé s'habituent aux choses, préparent des protocoles, des procédures, et puis ben, quand le virus ne joue pas le jeu, c'est sûr qu'il y a un temps de réaction qui peut être extrêmement impressionnant et dangereux.
Une chose qu'on a entendue dans l'actualité, c'est l'histoire du tri des patients, notamment pour l'Italie. En dehors de l'épidémie, certains médecins ont dit en France que c'était une pratique courante. Est-ce qu'on peut expliquer, contextualiser comment ça se passe, ce tri des patients ?
C'est super important parce que les messages qui ont été passés parfois par les médias également pouvaient faire penser que on avait un tri comme si dans la population il y avait des gens qui méritaient de vivre et d'autres pas, ce qui est extrêmement impactant. Hein. Aujourd'hui, vous avez 70 ans, 71 ans, 70 ans et un jour, vous apprenez que tout à coup, vous pourriez ne pas être accepté en réanimation, comme si votre vie valait moins que celle des autres, ce qui est absolument pas le cas pour les médecins, jamais. C'est simplement que les réanimateurs notamment, mais les urgentistes sont très habitués aussi, les régulateurs du SAMU sont habitués à jouer sur une certaine capacité d'accueil, de lit, et puis une certaine capacité de la personne en elle-même, statistiquement, à supporter ce que c'est qu'une réanimation. Une réanimation, ça veut dire on va vous suppléer vos organes, comme on l'a déjà dit, on va faire des injections, on va respirer pour vous, on va vous placer sur le ventre et puis sur le dos, c'est vraiment un marathon et le corps n'est pas prêt à supporter ça dans tous les cas. Une réanimation pour quelque chose d'assez court, pour passer un cap après un bloc opératoire qui s'est mal passé ou des choses comme ça, ça peut durer 2-3 jours, à peu près tout le monde passe cette phase-là. Par contre, le coronavirus peut mettre 3 semaines, 1 mois et parfois plus à vous autoriser à sortir de réanimation. Quelle personne est capable de supporter ce mois, ces semaines de réanimation? Comment le corps va le supporter? Et donc, ce tri ne s'est pas fait sur un âge ou sur des consignes de valeur, parce que là, tout le monde est digne d'aller en réanimation. Par contre, sur des statistiques qui disaient, ben non, statistiquement, avec tant de pathologies, tel facteur de risque, vos chances de sortir vivant d'une réanimation sont trop faibles pour qu'on prenne le lit à quelqu'un qui pourrait s'en sortir. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que ça a été fait. Et puis également, sur, non pas sur des critères d'âge, mais des critères de qualité de vie, d'autonomie. Voilà, parce que vous pouvez être très fragile à 50 ans et extrêmement solide à 75.
Aujourd'hui, on semble tout doucement sortir de la crise et d'autres questions se posent, notamment sur les conditions de la sortie du confinement. Deux éléments reviennent systématiquement dans les conversations, le masque et les tests. Que pensez-vous du port du masque ?
Alors le port du masque, j'ai fait partie des médecins qui pensaient que c'était peut-être exagéré. Et puis on a eu tellement d'informations contradictoires à un moment que c'était pas simple de savoir. Bon, globalement, les masques, c'est quelque chose qu'on utilise dans les hôpitaux et même dans les cabinets de médecine générale et ailleurs, tout le temps, quand on est nous-mêmes infectés et qu'on ne veut pas le passer à nos patients. C'est d'abord une protection des autres. Donc c'est quelque chose qui a toujours été utilisé et dans tout virus ORL ou pulmonaire, il est tout à fait justifié de mettre un masque. Donc en ce moment, pour le dire rapidement, il est important de mettre un masque, il est utile d'en avoir. Il est possible que dans les médias, on nous ait, parce que les politiques nous ont expliqué que c'était pas si utile que ça, en fait surtout parce qu'on n'en avait pas, et qu'il y ait eu un petit retard, mais encore une fois, il a fallu également pour nos politiques et nos autorités sanitaires le temps de comprendre comment fonctionnait ce virus. Et ce temps-là, il y a eu une perte de temps et des informations contradictoires.
Justement, parlons politique. Le maire de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat, a fait le choix de distribuer des masques en tissu aux foyers burgiens. Quel intérêt de porter un masque en tissu ?
D'abord, je trouve très intéressante cette décision parce qu'il y a, le côté, en plus, utilisation et mise en valeur de certaines entreprises de lin qui a été choisie. Le masque en tissu, comme toute barrière à l'évacuation d'une toux, d'un éternuement qui vaporise dans l'air des microbes, est une excellente idée. Simplement, en plus, il est parfois plus supportable que les masques plus classiques qu'on utilise, nous, dans les soins. Et puis, ça permet aussi de conserver les masques dits extrêmement efficaces, à condition d'être changés régulièrement dans la journée, etc., pour les milieux où il y en a absolument besoin, c'est-à-dire dans les EHPAD, dans les hôpitaux, auprès de personnes particulièrement fragiles, à qui des personnes saines, comme les soignants, viennent peut-être apporter un virus qu'elles ne savent pas qu'elles portent. Donc, je pense que l'idée de mettre des masques en tissu est une excellente idée, avec la prudence de les laver régulièrement. Et puis, bon, pour l'anecdote, on voit de plus en plus de masques sortir avec un côté, avec un tissu, puis l'autre côté, reverso, un peu un autre tissu. Il va de soi qu'on ne peut pas mettre une fois le masque d'un côté et le lendemain le masque de l'autre côté. Il est important dans l'intervalle de le laver parce que voilà, le fait de le retourner ne le lave pas.
Une autre condition au déconfinement, ce serait les tests systématiques. Vous pouvez nous expliquer comment fonctionnent ces tests ?
Très rapidement, en fait. Ceux qui sont utilisés actuellement sont des tests qui sont basés sur le prélèvement dans les narines assez profondément pour aller récupérer des sécrétions qui seraient porteuses du virus. D'accord ? Donc après, on appelle ça une PCR, ça part en laboratoire et on recherche les traces du virus. Donc ces tests-là ont une certaine efficacité à condition de tomber à un moment où le virus est dans les narines. C'est-à-dire que s'il n'est pas encore dans les narines et qu'il est encore seulement au niveau digestif, ben on risque de passer à côté et de dire que vous êtes négatif alors que vous êtes porteur. Et puis au contraire, si vous ne l'avez plus dans les narines et qu'il est bien dans vos poumons et qu'à ce moment-là, il y a moins d'expectoration, que votre corps est déjà en train de bien le combattre, ben on peut vous dire que vous êtes négatif alors que vous êtes porteur. Donc il a un intérêt, surtout quand il y a des signes ou quand on est a priori dans un milieu où il y a beaucoup de virus, par exemple quelqu'un qui est porteur, qui est malade, qui est chez nous, avec qui on vit, et puis qui on voudrait nous tester pour voir si on est déjà porteur. Là, ça pourrait avoir un intérêt. Mais il faut que ce soit dans une phase bien précise. Après, il y a d'autres tests qu'on attend, en fait, pour qu'ils soient vraiment valables. Ce sont des tests qui vont chercher des anticorps. Donc là, ça va plutôt être dans le sang, et on va aller regarder les traces à distance du virus. Alors ceux-là, ils ont la particularité de nécessiter un certain temps avant de se positiver, puisqu'on ne peut pas l'avoir tout de suite, des anticorps. Et puis alors, le problème aussi, c'est que pour l'instant, ils ne sont pas spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu d'autres coronavirus qui ont diffusé. Ceux-là peuvent avoir provoqué chez certaines personnes des réactions, des défenses, avec une partie de défense aiguë, c'est-à-dire des anticorps pour maintenant, et puis une partie d'anticorps qu'on appelle grossièrement des anticorps mémoire, qui vont rester en vigilance, en sentinelle pendant quelques mois, quelques années. C'est le principe de la vaccination. Quand on vaccine quelqu'un, on va fabriquer des défenses qui vont protéger un certain nombre d'années. Est-ce que les tests d'aujourd'hui vont aller rechercher les anticorps spécifiques à ce coronavirus de l'année 2019, ou est-ce qu'il risque de nous dire « bah oui, vous êtes protégé puisque vous avez des anticorps en fait d'un autre coronavirus ». Donc c'est pour ça que les chercheurs ont besoin d'un certain temps pour nous proposer un test qui soit suffisamment fiable. Aucun test n'est à 100% fiable, mais quelque chose de suffisamment solide pour pouvoir vraiment dire aux gens « oui, vous avez été porteur, vous avez eu très peu de signes, vous pouvez vous balader avec un peu plus de sécurité ».
Les écoles rouvriront leurs portes avec plusieurs conditions à différents moments. On a pourtant dit que les enfants étaient les premiers à diffuser le virus. Pourquoi ?
Oui. Alors, on est parti de l'idée que les enfants avaient un système immunitaire particulier qui, en tout cas dans ce coronavirus, on se rendait compte qu'ils étaient moins touchés que le reste de la population. Donc on s'est dit, puisqu'ils sont porteurs forcément, puisqu'ils vivent avec ceux qui sont malades, mais qu'ils ne sont pas malades et qu'ils n'ont pas de signes, du coup, ils peuvent être diffuseurs. Diffuseur discret, parce que vous allez vous méfier de quelqu'un qui vous tousse en pleine figure ou qui même éternue dans la salle où vous êtes. Par contre, vous n'allez pas forcément faire attention à un enfant qui crache, qui rigole, qui fait le gugus et qui joue comme un enfant normal. Et à ce moment-là, c'était le risque que ça vienne d'eux. Bon. Aujourd'hui, on est en train un peu de revenir là-dessus. On se rend compte, encore une fois, parce qu'il y a une cinétique à une infection, il faut voir un peu comment ça se développe, que ce ne serait pas si évident. Est-ce qu'ils sont vraiment porteurs? Est-ce qu'ils sont simplement pas plus porteurs que les autres? Ou peut-être encore moins? Ça, il va falloir attendre beaucoup plus de temps pour le savoir. La réouverture des écoles, c'était la deuxième partie de votre question, elle est probablement obligatoire pour plein de raisons, qu'ils soient politiques, sociales, et puis aussi parce que voilà, l'école doit reprendre à un moment et qu'on se rend compte que ça risque d'être long, cette histoire de coronavirus. Elle va devoir se faire dans certaines conditions. Il va y avoir encore des choses qui seront peut-être bizarres à comprendre et qui seront d'ailleurs probablement dans un deuxième temps expliquées comme ayant été inutiles. Mais bon, un peu comme tout le reste depuis le début de cette crise, il faut voir venir pour voir ce qui se passe.
Et pour les parents angoissés, comme moi, on remet son enfant à l'école ou pas? Ou on se dit, est-ce que je le remets à l'école mais je ne l'emmène plus chez papy-mamie? Comment on fait?
Oui, alors, sur pareil, c'est une question de bon sens. Je pense que le choix est assez personnel. Apparemment, il va y avoir une certaine ouverture d'esprit de la part de l'école par rapport à ces angoisses-là. Pour rappel, simplement, l'angoisse, la définition psychiatrique, c'est une peur sans fondement. D'accord, c'est en théorie, hein. Alors que l'anxiété, l'inquiétude, la prudence peuvent largement suffire. Donc, se faire son opinion, essayer d'aller rechercher les informations, voir quelles sont les mesures barrières que l'école va mettre en place. Est-ce qu'il y aura suffisamment de gel hydroalcoolique ou surtout de savon, qui est très efficace quand on se lave très bien les mains? Est-ce qu'il y aura suffisamment de masques? Est-ce que les enfants ne seront pas trop serrés en classe? Ça va dépendre. Si vous êtes à la campagne, dans un endroit où il y a beaucoup de place et où il y a plusieurs salles éventuellement, ce sera peut-être faisable. Dans un endroit où la population est beaucoup plus dense avec des salles de classe complètement bondées, ça va être différent à gérer. Donc, je crois qu'il faut laisser venir. La question de savoir si les enfants ont le droit d'aller voir les grands-parents, ça va aussi dépendre du besoin des grands-parents. C'est-à-dire qu'il y a un moment où si on prend les mesures barrières, tout le monde est capable de se rendre compte de ce qui est en train de se passer, eh ben, les grands-parents peuvent dire, écoutez, ouais, moi, j'ai besoin de vous voir, donc maintenant, je mets un masque, vous vous lavez les mains, vous faites la même chose, on se voit quand même, peut-être on se fait pas les mêmes câlins que d'habitude, peut-être qu'on peut quand même jouer et parler et se voir et se faire plaisir en attendant que les choses soient plus lisibles, parce que petit à petit, on va avoir de plus en plus d'informations internationales qui vont nous permettre d'avoir des conduites non seulement de bon sens et également de plus en plus sûr.
Justement, on a parlé des grands-parents. Quelles pourraient être les conditions pour que les personnes fragiles ou à risque puissent être déconfinées?
Alors, a priori, ça va être laissé à leur propre choix, d'après ce qu'on a su au niveau politique. Mais c'est pareil, ça va. Si c'est pour complètement angoisser et ne plus vivre à l'idée d'être infecté par les autres, de toute façon, ces personnes-là vont probablement rester très confinées d'elles-mêmes, en espérant que ça ne les isole pas trop et que ça ne les angoisse pas trop. Et puis les autres, elles prendront peut-être des risques et en même temps, elles vont continuer à vivre. Donc, c'est des choses qui vont être assez personnelles. Il faudra rassurer les gens. Je pense que les soignants de première ligne, les médecins généralistes, mais également les responsables dans les EHPAD, partout où ça se travaille, hein, il y a les infirmières azalées dans les maisons de santé qui peuvent être de très bonnes informations. Il y a énormément en France d'interlocuteurs qui vont pouvoir donner des informations. Voilà, il faut juste qu'on soit tous assez prudents dans ce qu'on dit, parce qu'on peut dire blanc un jour et puis gris le surlendemain, voire noir parfois.
Au niveau des traitements, des solutions pour lutter contre l'épidémie, on a beaucoup entendu parler de la chloroquine, un médicament déjà sur le marché et utilisé. À quoi ça sert à la base, ce médicament?
Alors à la toute base, c'était un des anciens médicaments contre le paludisme. Maintenant, la plupart du temps, le paludisme est résistant à ce produit-là, mais pas toujours, ça dépend des endroits. Et puis, il a été également utilisé à des doses différentes dans le lupus, qui est une pathologie auto-immune qui donne beaucoup de souffrance. C'est une maladie chronique assez complexe. Il est très efficace là-dedans. La particularité dans le coronavirus, c'est que on ne sait pas trop qu'en penser. Il semblerait que soit mélangé avec d'autres traitements, notamment antibiotiques, soit seul, il puisse avoir une utilité. Alors, il y a un professeur marseillais qui pense que c'est extrêmement efficace et qui, en tout cas, a réussi à prouver que les patients qu'il avait traités avaient moins de charge virale après 5 ou 6 jours de traitement. On ne sait pas si la diminution de cette charge virale, entre autres dans le prélèvement, encore une fois, nasal, est vraiment en corrélation avec la gravité de l'atteinte de la maladie. Donc, est-ce que, oui, la charge virale baisse, mais non, les gens vont quand même parfois en réanimation. Donc ça, on manque de recul. Et puis, ce qui lui a été reproché, c'est que une étude scientifique, normalement, se fait dans des règles bien précises, ce qu'on appelle randomisée en double aveugle. Randomisée, ça veut dire on prend des gens au hasard dans une population, on fait deux bras, alors quand on dit bras, c'est deux parties, deux colonnes de personnes, deux listes. Et puis, dans un bras, on va faire le traitement qu'on est en train de tester et dans l'autre bras, on va faire soit le traitement qui est réputé efficace, soit un placebo. Et puis après, on va comparer ces deux populations pour voir s'il y a vraiment une différence significative. Il semblerait que certains pays qui aient fait ça de manière un peu plus sérieuse n'aient pas montré d'efficacité supérieure au traitement, alors que d'autres auraient tendance à dire « bah ouais, il y a peut-être un bénéfice ». Puis après, il y a eu la question d'à quel moment on le donne. Le professeur Marseillais et son équipe conseillent de le faire très tôt pour calmer le jeu rapidement avant une diffusion dans le corps. Et puis, les politiques notamment ont dit bah non, c'est mieux de le garder pour les personnes à un stade extrêmement grave, puisque à ce stade-là, de toute façon, on n'a plus grand-chose à faire, et donc ça se tente. Voilà, donc là, c'est pareil, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais chaque position est défendable.
La grippe n'existe plus lorsque les beaux jours arrivent, ou alors elle diminue. Est-ce que ça pourrait être la même chose pour le Covid ?
Ça a été l'espoir, bien sûr. Alors après, est-ce que ça n'existe plus ? Ou est-ce que ça touche moins de personnes et que du coup ça diffuse un peu moins vite? Ça, on va devoir attendre. Hein. C'est des questions auxquelles on pourra répondre dans un an et demi, 2 ans probablement, y compris sur la surmortalité. Hein. C'est assez discuté dans certaines populations. Est-ce qu'une partie des personnes qui sont décédées dans cette crise serait décédée dans les 3 mois qui viennent et finalement il y aura une baisse de mortalité statistique dans les mois qui viennent? On n'en sait rien, il va falloir attendre.
Comment est-ce qu'on pourrait faire disparaître ce virus ?
Disparaître, c'est un bien grand mot d'ailleurs. C'est plutôt, on peut le combattre et être suffisamment immunisé globalement pour qu'il ne nous dérange plus autant. Ça, c'est possible, mais il y aura toujours des virus. Il sera suivi d'autres virus, qu'ils soient corona ou pas. Et voilà, et ça, c'est l'histoire du monde. Ils ont toujours existé, ils existeront toujours.
Cette crise a pointé du doigt plusieurs dysfonctionnements de notre système de santé. Que faudrait-il vraiment changer, selon vous ?
Je ne sais pas s'il faut changer. On s'est rendu compte qu'il fallait peut-être être plus dans la prévention d'agir dans l'urgence. Pendant quelque temps, je pense qu'on aura un certain nombre de masques, on aura des solutions hydroalcooliques. Et puis, on peut espérer aussi que ça change nos mœurs, notre manière d'être, notre manière de nous laver les mains, notre manière de mettre plus souvent des masques quand on a un virus nous-mêmes, plutôt que de le diffuser. Et puis, de pouvoir continuer à aller voir les grands-parents, mais en faisant attention plutôt que de leur donner. Et voilà.
On n'était peut-être pas assez vigilants, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, alors vous savez, si vous êtes trop vigilant et que vous désinfectez tout autour de vous, vous passez tout à la javel, est-ce que vous n'allez pas au contraire avoir un problème de non-mitridatisation, c'est-à-dire le fait que vous n'habituez pas votre corps à combattre à force de le protéger ? Donc en fait, non, il faut probablement continuer à vivre assez normalement, mais en ayant conscience que quand on est malade, on peut être contagieux pour les autres et donc faire attention à ça. Il y a la question des vaccinations aussi qui va se poser. Est-ce que toutes les vaccinations sont utiles ? Est-ce qu'il faut encore plus se vacciner suite à un événement comme ça ? On va en entendre beaucoup parler.
Justement, vous l'avez dit, les mœurs vont changer, elles ont déjà changé. Plusieurs études sont menées aujourd'hui sur l'impact psychologique du confinement et de ce Covid. Qu'est-ce que vous en pensez de ces effets ?
Alors, j'espère que les gens continueront à se méfier et que, un peu, vous savez, comme quand il y a un événement qui choque tout le monde, on y pense énormément pendant 1 semaine, 2 semaines, parfois 1 mois, puis après on passe à autre chose. J'espère que ce ne sera pas le cas cette fois-ci et que nous-mêmes, hein, d'ailleurs les médecins y compris, on va garder ces bonnes habitudes. Il y a un certain nombre de bonnes habitudes qui sont arrivées, y compris celle d'aller prendre des nouvelles du voisin qui est un peu isolé, de se poser la question de savoir comment il se nourrit. Enfin, il y a des choses qui vont, on espère, être conservées. Après, la question de savoir les suites de ce virus sur la population, notamment sur l'angoisse que ça a provoqué. Hein, enfin, moi, ça, je pense que si j'avais 70 ans ou 75, je serais choqué de savoir que je suis vieux. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est la vieillesse ? Est-ce qu'on peut être assez jeune à 100 ans et puis finalement, parfois, ne pas vivre et avoir une vie très diminuée et pas facile à vivre à 40 ? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de messages qui sont passés, qui étaient très durs, qui ont été passés parce que, effectivement, nous, quand on parle à la radio, par exemple, en tant que médecin, on est assez endurci par rapport à des choses, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas touché, mais en tout cas, on peut en parler de manière assez légère, alors que ça a un impact extrêmement violent sur les gens. Plaisanter sur l'angoisse d'une personne, c'est irrespectueux. Et pourtant, on aurait aussi, on voudrait, nous, de temps en temps, montrer aux gens que c'est important de savoir relativiser et que finalement, avoir peur du virus, c'est peut-être dommage et qu'il vaut mieux avoir peur de ne pas profiter de la vie. Donc, trouver un équilibre.
Docteur Meyer, merci pour vos réponses.
Et merci.
On se retrouve le mois prochain avec une émission qui reprendra sa forme d'origine, je l'espère. À suivre. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.
Quoi de neuf, Doc ? Le quatrième vendredi du mois sur Radio B.